Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que nous vivons dans un monde où le péché semble quelque part dominer, où il est partout présent, dans les relations humaines, mais aussi en matière d'économie, de sexualité, de justice, de politique, de sport, de santé, et même maintenant dans l'alimentation. Et notre société semble s'éloigner de plus en plus de Dieu et de moins en moins se préoccuper de la volonté de Dieu. Et bien sûr, cela signifie que nous sommes entourés de pécheurs. Nous vivons dans un monde où il y a de nombreux pécheurs. Et n'oublions pas que nous-mêmes aussi, nous arrivons de pécher contre Dieu. Mais nous sommes entourés globalement d'un monde de pécheurs, c'est-à-dire d'un monde d'hommes et de femmes qui rejettent Dieu de leur vie, qui disent non à Dieu. Et nous savons que ces pécheurs sont perdus. Nous savons qu'en raison de leur péché et de leur rébellion, ils sont séparés de Dieu pour toujours. Mais heureusement, et cela a été évoqué ce matin, bien sûr, nous savons aussi que Jésus est venu, que Dieu s'est fait homme et qu'il a donné sa vie afin de sauver ceux qui placeraient leur confiance en lui. Ça, c'est le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cet Évangile, nous avons à cœur de l'annoncer, n'est-ce pas? Lors de la dernière réunion de membres, l'Église, à l'unanimité, s'est engagée, en tout cas s'est engagée, oui, dans un parcours alpha, parce que ça correspond à une de nos aspirations, annoncer l'Évangile. Et probablement aussi que c'est notre aspiration à titre individuel, et que nous aimerions bien que les personnes de notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues puissent entendre cette bonne nouvelle que Dieu leur adresse et qu'ils puissent y répondre. Mais, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, parfois annoncer l'Évangile peut nous faire peur. Et je pense en particulier à deux peurs. La première peur, c'est la peur d'être rejeté. Ce n'est pas la peur que l'Évangile soit rejeté, c'est la peur que nous soyons rejetés. Que les gens à qui nous avons annoncé l'Évangile se coupent de nous, qu'ils s'éloignent, qu'ils prennent leur distance, peut-être même qu'ils se moquent de nous et qu'à quelque part, ils attaquent notre foi. Et nous pouvons même peut-être avoir peur, en tout cas dans certains pays, peur qu'à cause de cela, on nous fasse du mal. On nous mette à l'index, on nous mette à la porte. Ça, c'est une première peur, la peur d'être rejeté. Et l'autre peur qu'il peut y avoir, c'est la peur de fréquenter, entre guillemets, des pécheurs. Pourquoi ? Parce que nous pouvons avoir peur qu'ils nous entraînent à leur suite, qu'ils nous entraînent dans leur vie de péché. Nous avons peur parfois d'être séduits, hein. C'est pas facile, par exemple, pour tout le monde, de fréquenter un groupe, vous savez, un groupe de langue de vipère. Un groupe de gens, il y en a parfois là, qui passent leur temps à casser les autres, à calomnier les autres. Et parfois, fréquenter un tel groupe peut nous amener, malheureusement, à les suivre dans cette direction-là. Il n'est aussi, par exemple, pas conseillé à tout homme d'aller évangéliser des prostituées. Nous avons plus ou moins des fragilités et nous devons parfois être prudents. Et puis, il y a aussi une peur que nous pouvons avoir, c'est la peur du regard des autres chrétiens. T'as vu avec qui il discute? T'as vu qui il reçoit chez lui? Et ces deux peurs ont entraîné deux comportements inverses de la part des chrétiens et des églises. On voit ça au cours de l'histoire. Tout d'abord, la peur d'être rejeté, la peur que des pécheurs s'éloignent de nous, qu'ils s'en aillent, peut nous amener à renoncer à annoncer l'Évangile. Alors là, on va plutôt manifester l'amour de Dieu par notre comportement, on va parler de l'amour de Dieu, mais on ne va surtout pas dire aux gens qu'ils sont perdus et qu'ils doivent se repentir de leurs péchés, qu'ils doivent demander pardon à Dieu pour leurs péchés et y renoncer. Ça, on préfère le garder sous silence parce qu'on se dit que ça, c'est un message qui ne va pas passer. Et il y a comme ça, des fois, des églises où, en fait, on ne dit que des choses qui vont plaire à tout le monde. Ne pas plaire aux gens qui sont là est un péché. Alors on ne va rien dire qui va gêner. Mais si on se met à plus dire ce qui gêne les gens, franchement, on ne va plus dire grand-chose. Et puis, il y a, à l'inverse, la peur de succomber au péché, par exemple. Donc là, on est conscient qu'il faut se séparer du péché. Eh bien, ou alors la peur aussi de fréquenter des pécheurs et de donner l'impression qu'on cautionne leur comportement, qu'on les soutient. Eh bien ça, ça peut nous amener à nous couper complètement d'eux. Il y a comme cela des églises ou des communautés qui ne sont en relation qu'avec des personnes déjà converties. Parce que les non-convertis, les pécheurs, surtout, on ne les côtoie pas, on ne se mélange pas. Ces deux comportements sont inverses, mais le résultat est le même. Dans les deux cas, l'évangile n'est pas annoncé à ceux qui auraient justement besoin de l'entendre, à ceux qui sont perdus, mais qui ont besoin d'entendre qu'il y a un sauveur, que Jésus est venu donner leur vie pour eux, si jamais ils changent leur attitude de cœur par rapport à Dieu. Deux comportements inverses, mais aucun n'est le bon, puisque cela nous empêche d'annoncer l'Évangile. Alors, quelle est la juste attitude? Le plus grand spécialiste de tous les temps, de l'évangélisation de tous les temps, celui à qui nous devons rechercher à ressembler, celui dont nous devons nous inspirer, c'est, vous le connaissez? C'est Jésus. Mieux que Paul encore, c'est Jésus. Alors nous allons donc ouvrir notre Bible ensemble afin de voir ce que Jésus a fait, ce qu'il a enseigné. Alors, aucun des textes que je vais lire ne sera projeté. Aussi, je vous invite à ouvrir votre Bible ou à vous en procurer une. Il y en a au fond, là-bas, si vous n'en avez pas, afin de pouvoir lire par vous-même la parole de Dieu. Et moi, personnellement, je lirai justement dans cette traduction-là, la seconde 21. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'évangile de Marc, au chapitre 2. Et si vous avez une traduction comme celle-ci, c'est la page 644. Marc, chapitre 2. Alors, l'histoire que nous allons lire se déroule à Capernaum. Alors, Capernaum se situe en Israël, près du lac de Galilée, qu'on appelle aussi d'autrefois le lac de Tibériade. Et c'est un village ou une petite ville dans laquelle Jésus habite lorsqu'il n'est pas en voyage. À Capernaum, c'est en quelque sorte chez Jésus. C'est même ce que nous dit le premier verset de Marc 2. Lorsqu'il est à Capernaum, il est dans sa ville. Inutile de dire que tout le monde se connaît. Parce que dans une petite ville, tout le monde se connaît. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Je vous invite à lire avec moi, ou en tout cas à écouter cette lecture, que je vais commencer au verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où leur marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Nous croyons parfois qu'une bonne et efficace annonce de l'Évangile doit être précédée par tout un travail de séduction envers notre entourage. Et il y a probablement de la sagesse à procéder ainsi. Nous devons rassurer les gens, nous devons leur montrer que nous n'appartenons pas à une secte, leur faire réaliser qu'à nos yeux, leur liberté de conscience et leur liberté de choix est quelque chose de fondamental pour nous, et même est complètement lié à notre compréhension même de la foi. On ne peut contraindre personne. Et tout ce travail est utile parce que si jamais les gens ont des préjugés contre nous, s'ils ont des peurs injustifiées, alors bien sûr nous devons les rassurer et leur montrer que nous les respectons et que nous les aimons. Mais parfois, nous allons plus loin que cela et nous ne nous contentons pas de balayer leurs préjugés, mais nous cherchons vraiment à les séduire. En gardant, par exemple, en gardant sous silence tout ce qui, dans la parole de Dieu, pourrait les gêner. Et nous nous taisons alors parce que nous avons peur que ces paroles puissent mal les disposer, que ça puisse les braquer. Et que cela les fasse fuir. Est-ce que parfois, on n'a pas un peu peur de parler de Dieu et de sa volonté? Eh bien, il est intéressant de réaliser que Jésus, le grand spécialiste de l'évangélisation, fait exactement l'inverse. Jésus fait précéder son annonce de l'Évangile par la proclamation de la parole de Dieu. Verset 13. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. Jésus enseignait la foule. Et par ce que nous rapportent les évangiles, nous savons que Jésus ne pratiquait pas la langue de bois. Son enseignement était clair, direct, percutant et correspondait à la situation des gens qu'il rencontrait. Jésus parlait de la grandeur de Dieu. Jésus parlait aussi de la volonté de Dieu. Jésus parlait du péché. Il parlait aussi du plan de salut pour tous les hommes. Et Jésus parlait de la nécessité de se repentir de nos péchés et de placer notre foi en lui. Tout cela, c'est proclamer la parole de Dieu. C'est annoncer ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Alors, ce n'est pas forcément tout dire. L'idée n'est pas de... On rencontre quelqu'un, on va tout lui dire. Mais l'idée est de lui dire ce qui nous semble pertinent par rapport à ses besoins et à la situation dans laquelle cette personne se trouve. Et bien sûr, chose indispensable, nous devons accompagner cette proclamation d'amour. D'amour pour cette personne, parce qu'une proclamation sans amour... Vous savez ce que nous dit 1 Corinthiens 13, une proclamation sans amour ne sert à rien, ce n'est rien d'autre que du bruit. Mais souvent, nous avons peur de proclamer la parole de Dieu, parce que nous avons peur que cela fasse fuir les gens. Et probablement que cela fera fuir un certain nombre de personnes. Ça, on doit en être conscient. Ça, c'est vrai. Mais quelles sont les personnes qui vont partir. Celles qui vont partir, ce sont celles qui ne sont pas prêtes à entendre ce que Dieu voulait leur dire. Et donc celles qui, de toute manière, n'étaient pas prêtes à répondre favorablement à l'invitation de l'Évangile à se réconcilier avec Dieu. J'en vois qui font « Moi, je crois que si ». Dans notre évangélisation, commencer par proclamer la parole de Dieu présente un énorme avantage, parce que cela attire à nous tous ceux qui, dont le cœur a été préparé par Dieu à recevoir ce que Dieu veut leur dire. Parfois, on peut passer beaucoup de temps à essayer de parler de Dieu à quelqu'un, parce que ben, cette pauvre personne-là, à la limite, on l'a coincée, je sais pas, dans un bus. Ça n'intéresse pas du tout. Puis nous, voilà, je leur dis, ah, ça n'a pas marché. C'est très différent de commencer à annoncer l'Évangile à quelqu'un qui nous a déjà entendu parler de Dieu, qui sait que nous sommes chrétiens et qui s'intéresse. Et là, on est face à un terrain favorable. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu et que des gens viennent à nous, lorsqu'elles ne sont pas repoussées par notre proclamation, mais qu'au contraire, elles se rapprochent de nous, cela manifeste qu'elles ont le désir d'en savoir davantage sur Dieu et sur le moyen de se réconcilier avec lui. Jésus a proclamé la parole de Dieu, et c'est ce que nous devons également faire, parce que c'est la proclamation de la parole de Dieu qui va permettre d'attirer les pécheurs qui ont soif de Dieu. Et c'est à ces personnes-là que nous devons accorder notre temps. Notre proclamation de la parole de Dieu, à ce niveau-là, n'a pas pour but de convaincre les gens. Ce n'est pas nous, d'ailleurs, qui convaincons les gens. C'est Dieu qui touche les cœurs. Mais elle va permettre à Dieu de toucher les cœurs. Ou aux personnes dont le cœur a déjà été préparé par Dieu, elle va permettre à ces personnes de manifester leur intérêt pour la parole de Dieu. Et ces personnes-là, ces pécheurs qui ont entendu la proclamation de la parole de Dieu et qui ne s'enfuient pas, mais qui au contraire s'approchent de nous, alors de nous personnellement ou bien de notre Église, eh bien nous devons alors leur accorder du temps. Nous devons les accueillir, mais nous devons aussi leur accorder du temps, notre temps. Alors, certaines personnes peuvent alors s'indigner ou même protester suite à une telle déclaration. Parce que la Bible nous a appelés à la sainteté. La Bible est très claire là-dessus. Elle nous appelle à la séparation d'avec le péché. Et quoi ? Et il faudrait alors accueillir les pécheurs lorsqu'ils se présentent ? Certains considèrent que ce qu'il faudrait, c'est au contraire nous séparer des pécheurs et rester entre croyants. Voilà, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se fortifie. Il faut que ceux qui aiment le Seigneur restent ensemble pour progresser dans la sainteté. Et c'est vrai que cette dimension communautaire existe dans la Bible. Mais il y a une dimension que nous oublions, c'est que cet évangile que nous avons reçu, c'est également cet évangile que nous devons partager. Cette indignation, l'idée qu'une personne qui marche avec Dieu puisse passer du temps avec des pécheurs et même se lier d'amitié avec eux, n'est pas nouvelle. C'est déjà ce qui a animé les contemporains de Jésus et en particulier les spécialistes de la loi et les pharisiens. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens étaient très attachés à ce qu'on respecte la loi de Dieu, mais aussi, et c'est probablement là le problème, mais aussi à ce qu'on respecte toute une série de règles qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Pour eux, ce qui comptait, c'était les actes, c'était le comportement extérieur. La marche avec Dieu se résumait à une sorte d'une série de devoirs. Il y avait des choses que l'on devait faire, il y avait des choses qu'on avait l'interdiction de faire. Et dans leur approche de cette marche avec Dieu, le fait que Jésus fréquente des pécheurs les indigne et les rend perplexes. Versets 15 et 16. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi ? Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme qui prétend marcher avec Dieu accepte-t-il de manger avec des pécheurs ? Pourquoi est-ce qu'il ne les chasse pas ? Pourquoi est-ce qu'il passe du temps avec eux ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux à faire que passer du temps avec ces pécheurs ? Pourquoi accueillir les pécheurs et passer du temps avec eux ? La question a été posée aux disciples de Jésus, mais c'est Jésus qui prend la peine de répondre lui-même. Voilà pourquoi il est important que nous passions du temps avec eux. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et la majorité des manuscrits du texte biblique indiquent également cette précision. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Cette affirmation se trouve au centre de notre passage, mais elle se trouve également au centre de la mission de Jésus, celle qui est écrite sur ce mur. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais il se trouve également au centre de la mission que Jésus nous a confiée, à nous, ses disciples. Matthieu 28, 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. La mission de Jésus est de sauver les perdus. Notre mission à nous consiste à aller au-devant de ceux qui sont loin de Dieu afin de leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et en espérant que suite à cela, ils vont suivre Jésus et devenir ses disciples. Pourquoi est-il important que nous passions du temps avec des pécheurs ? Parce qu'ils ne se portent pas bien du tout. Ils sont plus que malades. Ils sont condamnés à mort. Est-ce que ça ne nous fait rien de savoir qu'il y a énormément de gens autour de nous qui sont condamnés à mort ? La mort éternelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour toujours. Ces pécheurs, nous devons les rencontrer et nous devons leur parler. Et que devons-nous dire à ces pécheurs ? Eh bien, nous devons les appeler à changer d'attitude par rapport à Dieu, à demander pardon pour leurs péchés. Nous devons les inviter à donner leur vie à Jésus afin de le suivre. Et là, il ne s'agit pas de contraindre les gens à quoi que ce soit, hein. Des fois, on est un peu culpabilisé en annonçant l'Évangile, mais on n'impose rien. Nous ne faisons qu'annoncer une bonne nouvelle que ces gens ont la liberté de recevoir ou la liberté de rejeter. Nous ne faisons que leur offrir l'opportunité d'entendre l'appel du Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui les appelons, c'est le Seigneur qui les appelle. Nous-mêmes, nous ne sommes que les porte-parole du Seigneur, comme ça nous était rappelé tout à l'heure. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes l'Église, la bouche par laquelle le Seigneur est censé parler, et si nous n'annonçons pas l'Évangile, qui d'autre va le faire à notre place ? Personne. Jésus, par son comportement et par sa pratique, nous montre que l'amitié avec les pécheurs, la proximité, le respect offrent un cadre favorable et particulièrement propice à notre annonce de l'Évangile. Et là, parfois, d'autres voix se font entendre. Accueillir des pécheurs, bon, ça passe encore. Ok, venez. Mais être amis avec eux, passer du bon temps avec eux, être proche d'eux, les accueillir, les côtoyer, alors ça, non. Verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi ? Encore un pourquoi. Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas ? Pourquoi ne sont-ils pas tristes ? Pourquoi ne sont-ils pas écrasés et terrassés par ces pécheurs et ce péché qui les entoure ? Dans la situation dans laquelle ils devraient être en train de jeûner, de supplier le Seigneur, d'intervenir, de les frapper. Pourquoi ne font-ils pas cela ? Eh bien, c'est Jésus qui à nouveau donne la réponse. Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Si jamais nous avons proclamé la parole de Dieu et que suite à cela, des pécheurs viennent à nous, si nous avons parmi nos amis, notre famille, nos collègues, nos voisins, nos relations, des personnes qui nous ont déjà entendu parler du Seigneur, ou bien qui sont déjà venues à l'Église et donc qui savent ce que nous croyons, et que suite à cela, elles veulent en savoir davantage, eh bien nous ne devons pas porter le jeûne, mais nous devons nous réjouir. Non pas nous réjouir du péché, mais nous réjouir de la présence du Seigneur à nos côtés et nous réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie et le cœur de ces personnes. Parce que cet intérêt pour le Seigneur ne peut venir que du Seigneur en lui-même. La Bible nous dit que l'homme livré à lui-même ne s'intéresse pas à Dieu. Que l'homme livré à lui-même n'accepte pas d'entendre qu'il est pécheur, qu'il est perdu et qu'il a besoin d'un sauveur. Mais si, dans notre entourage, quelqu'un nous a déjà entendu proclamer la parole de Dieu et que suite à cela, il manifeste un certain intérêt, alors nous devons nous réjouir parce que cela ne peut venir que du Seigneur. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes dans notre annonce de l'Évangile. Si le Seigneur nous laissait tout seul, alors ça oui, oui nous devrions être tristes, nous devrions jeûner afin de supplier le Seigneur de revenir avec nous. Mais ce n'est pas le cas. Après avoir dit « Faites de toutes les nations des disciples », vous vous souvenez ce que Jésus a dit ensuite ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Chaque fois que nous avons le privilège, et je dis ça, le privilège de côtoyer des pécheurs qui veulent en savoir plus sur Jésus, réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce que cela témoigne que le Seigneur a commencé un travail dans leur cœur. Alors, certaines de ces personnes suivront le Seigneur immédiatement. C'est par exemple ce qui s'est passé dans notre passage pour Lévi, qui, on va le découvrir plus tard, va devenir Matthieu, celui qui a écrit l'Évangile de Matthieu, un des apôtres. Mais d'autres ne suivront pas forcément le Seigneur immédiatement. Et peut-être même que un jour, elles ne le feront peut-être jamais, on ne sait pas. Mais qui sait ? Peut-être que demain, dans un an, dans 10 ans, nous aurons la joie de voir ces personnes répondre favorablement à l'appel du Seigneur et à changer d'attitude par rapport à lui. La réponse à l'appel du Seigneur ne nous appartient pas. Ça, c'est quelque chose qui se passe entre la personne et le Seigneur. Et parfois, c'est très rapide. D'autres fois, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, nous devons être conscients d'une chose. Pour qu'il puisse répondre favorablement à l'appel du Seigneur, eh bien, il faudra d'abord que quelqu'un leur ait fait entendre cet appel. Cet appel à se repentir de leurs péchés. Et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas en nous coupant des pécheurs, ce n'est pas en restant confortablement entre nous, entre chrétiens, que nous pourrons leur annoncer l'Évangile. Mais c'est au contraire en les côtoyant. C'est en faisant ce que Jésus a fait. On les compte si Jésus n'avait accepté dans son entourage que des gens déjà convertis. C'est pas compliqué, il serait resté tout seul. Mais il est allé au-devant. Côtoyer des pécheurs, être ami avec eux, passer du temps avec eux, peut quelque part nous heurter ou nous étonner. Et dans une certaine mesure, c'est vrai que nous devons être prudents, parce que nous ne devons pas, par notre proximité avec eux, encourager les pécheurs, aller encore plus loin. Et nous, nous devons être prudents pour nous-mêmes aussi. Nous ne devons pas chercher à leur ressembler, ni à les imiter. C'est pour ça que certains veulent se couper à tout prix. Mais ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous dit pas aller les côtoyer pour leur ressembler, pour les suivre. Mais il nous dit, côtoyez-les afin de les inviter à me suivre. C'est le mouvement inverse que nous sommes appelés à vivre, à faire. L'Évangile ne s'adresse pas à des chrétiens, mais à des pécheurs. L'Évangile est un message qui s'adresse précisément à ceux qui, aujourd'hui, ne se conforment pas à la volonté de Dieu. À des gens qui ont peut-être entendu parler de Dieu, mais des gens qui, en tout cas, ne suivent pas le Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces personnes commencent d'abord par se comporter comme des chrétiens, donc à bannir le péché de leur vie, pour ensuite leur parler de Jésus. Jésus a utilisé deux images pour ça. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Jésus ne s'adresse pas simplement à ceux qui sont déjà justes, mais il s'adresse à des pécheurs. Parce que c'est cette nouvelle vie, cette nouvelle alliance que nous sommes invités, non seulement nous à vivre, mais à proclamer. Il ne s'agit pas de faire rentrer les gens d'abord dans un moule, mais de leur faire comprendre que justement, ils sont en dehors du plan de Dieu, mais qu'ils peuvent revenir au Seigneur. L'Évangile n'est pas non plus un message qui se limiterait à dire « changez votre comportement extérieur ». Mais c'est un message qui va beaucoup plus loin que cela et qui dit changez de cœur, changez de vie, vivez pour le Seigneur. Et la vie pour et avec le Seigneur dépasse le simple respect des règles religieuses et va bien au-delà. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Cette vie nouvelle, cette vie débordante, est offerte à ceux qui se savent pécheurs, mais qui ont répondu, ou qui vont répondre favorablement à l'appel du Seigneur, à changer de vie. Rappelons-nous ce que Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et des fois, on fait un concert, on dit « on va annoncer l'Évangile ». Il y a du monde, ah. Puis on regarde. Alors celui-là est dans une église, celui-là dans une église, celui-là dans une église, celui-là dans une église. Voilà, on va annoncer l'Évangile à des chrétiens. C'est pas ça le but. Le but est justement d'aller trouver, de rencontrer des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Le Seigneur veut sauver des perdus. C'est pour cela qu'il est venu jusqu'à nous. Il est venu pour sauver des pécheurs. Et ça, c'est la mission du Seigneur. Mais notre mission à nous, c'est d'annoncer aux pécheurs que le Seigneur les appelle à changer d'attitude, à se convertir et à venir à lui. Alors, proclamons la parole de Dieu. Suite à cette proclamation, accueillons ce que le Seigneur a attiré à lui, ceux qui veulent en savoir plus. Appelons alors ces pécheurs à se tourner vers Dieu et réjouissons-nous de la présence du Seigneur. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur est en train d'accomplir, parce que nous ne sommes pas seuls. Amen.